Le pouvoir imaginaire, une série d'émissions enregistrées à Toulouse, à Saint-Pierre-des-Cuisines, dans le cadre du Marathon des mots, en partenariat avec Philosophie Magazine. Aujourd'hui, Bergson, Senghor, Fanon et la pensée postcoloniale. Invitée, Nadia Yalakisoukidi, à la lecture Julie-Marie Parmentier, réalisation Rafik Zénine. Quand, dans la peste de Camus, pour prévenir l'extension du fléau, la ville d'Oran fut mise en quarantaine, parmi les malchanceux qui, pour leur malheur, ne faisaient que passer par là et se virent assignés à résidence en un long jour sans fin dans cette ville sinistre qui tournait le dos à la mer, se trouvait le journaliste Raymond Rambert, court de taille, les épaules épaisses, le visage décidé, les yeux clairs et intelligents, qui enquêtait en habit de coupe sportive pour un grand journal de Paris sur les conditions de vie des Arabes et voulait des renseignements sur leur état sanitaire. Il a été servi. Seulement, quand la quarantaine fut instaurée, le premier réflexe de Raymond Rambert, qui, à sa décharge, était amoureux, fut de tenter par tous les moyens, légaux ou non, de quitter cet endroit maudit et de reprocher à tous ceux qui, sans le désapprouver, ne lui facilitaient pas la tâche, d'être dans l'abstraction, dans la rationalité, d'être étranger à sa séparation et à tout ce qui fait la langue d'un cœur. Mais c'est lui qui se trompe. Et c'est lui qui, voulant fuir au lieu de venir en aide, se sépare de lui-même et des hommes. Rambert n'est jamais jugé dans la peste par ceux qui ont choisi de se battre, contrairement à lui, au début. Aucun des héros de la peste, dont l'abnégation est totale, ne songe à faire à cet homme le grief de son égoïsme. Seulement voilà, le bel exemple de leur vie, la qualité de leur silence et le refus de juger la lâcheté suffisent à le rendre courageux. De fait, et tout l'optimisme de Camus réside en cette conversion, alors que Rambert trouve enfin le moyen de s'échapper, il choisit finalement de rester dans la ville et d'aider ses camarades. Car, dit-il, s'il n'y a pas de honte à préférer le bonheur, il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. Rambert est un apostat de l'égoïsme qui retourne sa veste enfin du mauvais côté. Ce n'est pas en faisant la morale à l'égoïste qu'on le convertit à la cause de l'autre, ni à l'inverse en faisant valoir cyniquement qu'être altruiste est dans son intérêt. Mais c'est en l'aidant à découvrir qu'aucune indifférence ne nous épargne de mourir, que tout ce qui n'est pas donné est perdu, et que ce n'est pas parce que la vie est courte qu'elle doit être petite. Le clos et l'ouvert, au sens que Bergson donne à ces deux termes, ne s'opposent pas comme le bien et le mal, ou comme le mal et le bien, mais comme le calcul et le don. L'égoïsme et la munificence, la haine et la colère, la violence et la force, enfin peut-être, et on va en parler aujourd'hui, la nation et l'humanité.
La nature a interposé entre les étrangers et nous un voile habilement tissé d'ignorance, de prévention et de préjugés. Qu'on ne connaisse pas un pays où l'on n'est jamais allé, cela n'a rien d'étonnant, mais que, ne le connaissant pas, on le juge et presque toujours défavorablement, il y a là un fait qui réclame une explication. Quiconque a séjourné hors de son pays et voulu ensuite initier ses compatriotes à ce que nous appelons une mentalité étrangère a pu constater chez eux une résistance instinctive. La résistance n'est pas plus forte s'il s'agit d'un pays plus lointain. Bien au contraire, elle varierait plutôt en raison inverse de la distance. Ceux qu'on a le plus de chances de rencontrer sont ceux qu'on veut le moins connaître. La nature ne s'y fut pas prise autrement pour faire de tout étranger un ennemi virtuel, car si une parfaite connaissance réciproque n'est pas nécessairement sympathie, elle exclut du moins la haine. Nous avons pu le constater pendant la dernière guerre. Tel professeur d'allemand était aussi bon patriote que n'importe quel autre Français, aussi prêt à donner sa vie, aussi monté même contre l'Allemagne. Mais ce n'était pas la même chose. un coin restait réservé. Celui qui connaît à fond la langue et la littérature d'un peuple ne peut pas être tout à fait son ennemi. On devrait y penser quand on demande à l'éducation de préparer une entente entre nations. La maîtrise d'une langue étrangère, en rendant possible une imprégnation de l'esprit par la littérature et la civilisation correspondante, peut faire tomber d'un seul coup la prévention voulue par la nature contre l'étranger en général. Mais nous n'avons pas à énumérer tous les effets extérieurs visibles de la prévention cachée. Disons seulement que les deux maximes opposées, homo homini deus et homo homini lupus, se concilient aisément. Quand on formule la première, on pense à quelques compatriotes. L'autre concerne les étrangers.
Comme c'est beau, Bergson, Yala Kisukidi. Comme c'est merveilleux. C'est les deux sources de la morale et de la religion. C'est son dernier livre, hein, dont Julie-Marie Parmentier vient de lire un extrait. Comment expliquez-vous que le même homme, l'auteur du texte qu'on vient d'entendre, ait, en 1915, à l'Académie des sciences morales et politiques, tenu un discours où il met toute sa philosophie, et surtout, pardonnez-moi, son lexique, la création, l'inventivité, l'intuition, la vie, lutter contre la mort, vaincre la mort. Il a mis tout son lexique, sa haine du mécanisme, etc., tout son lexique au service du patriotisme le plus franchouillard.
Au service du patriotisme le plus franchouillard. Donc, ce moment bergsonien est assez critique.
C'est le talon
parce
de Bergson.
Que c'est le talon de Bergson, mais je pense ce texte-là nous permet de l'assumer et de le relire. C'est que le rapport de Bergson à son engagement politique est complexe sur le plan philosophique et sur le plan politique, en fait. Mais il me semble que les deux sources de la morale et de la religion, et particulièrement le texte qui vient d'être lu, permet d'y répondre. À savoir qu'on voit un des événements. Le texte de Bergson, certes, est un texte de philosophie morale, mais c'est aussi un texte qui se constitue à partir d'un événement réel, celui de la guerre. Non seulement de la guerre, celle qui fut, la guerre qui précède, la guerre de 1914, et Bergson, quand il parle de ce voile que nous interposons entre nous et l'étranger, c'est très bien que lui aussi, il a participé à cette espèce de fronde contre l'Allemagne, passée du côté de la barbarie et de la sauvagerie, qui lui est restée effectivement collée à la cheville. Il sait qu'il a participé à cette rhétorique, mais dans les deux sources, en fait, il démonte cette rhétorique. Et donc, c'est un ouvrage qui, à la fois, donne toute sa force à un événement, celui de la guerre, comme événement historique, mais qui se veut aussi, sur le plan philosophique, une pensée philosophique de la guerre. Et il ne faut pas aussi oublier, vous l'avez dit, la date de rédaction de l'ouvrage, 1932. En 1933, les nazis sont au pouvoir en Allemagne. Donc, c'est aussi un texte qui se construit, et Bergson le dira d'ailleurs plus tard à un de ses jeunes élèves, bon, qui aura une histoire pas très glorieuse ensuite, Jacques Chevalier, mais il dira que l'hitlérisme est la vérité des deux sources, non pas au sens où il s'agit évidemment de justifier l'hitlérisme, mais au sens où tout ce qu'il va dire sur la clôture, sur l'étranger, sur l'identification de l'étranger à un ennemi, c'est précisément ce qu'il va analyser philosophiquement dans les deux sources. Et la force, je me permets juste ce dernier point, la force de Bergson, c'est certes, dans le texte, il dit « la nature a interposé entre l'étranger et nous ».
La métaphore du voile, etc., qui est récurrente chez Bergson, hein, qui désigne tout ce qui s'interpose entre nous et la réalité, c'est-à-dire en fait les préjugés.
Les préjugés. Mais quand il dit la nature, c'est problématique. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que, là aussi, Bergson construit une espèce d'anthropologie de la fascination du bourreau, de la fascination, une anthropologie de la bête? Nous aurions tous une bête en nous à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Bergson ne dit pas ça. Il dit qu'effectivement, naturellement, nous interposons quelque chose comme un voile, des préjugés entre les étrangers et nous, mais la force des deux sources, c'est qu'il offre des voies de dégagement, des voies de sortie. L'humanité, donc, ne se résout pas ou ne se réduit pas à cette haine, en fait. Elle possède en elle des ressources, précisément, pour la surmonter et créer autre chose. Et c'est ça la force de ce que Bergson appelle les deux sources de la morale et de la religion. Il y a du clos, mais il y a aussi de l'ouvert.
On passe du clos à l'ouvert, non par des principes. C'est pas par l'érection de principes, le fait d'imposer des principes. On ne passe pas du clos à l'ouvert en disant à quelqu'un « maintenant, tu vas t'ouvrir ». À la façon de Saint-Just qui veut priver de liberté les ennemis de la liberté, ou de ces gens qui sont tellement tolérants qu'ils excluent de leur cercle tous ceux qui le sont moins qu'eux. On passe pas du clos à l'ouvert de cette façon-là, on le passe empiriquement par l'expérience, et c'est un mouvement interne qu'il faut comprendre comme on doit lire Bergson, c'est-à-dire de l'intérieur. Et ce passage du clos à l'ouvert a fécondé, et on va entrer dans la lettre du texte ensuite, mais ce préambule est indispensable, je crois. Ce passage a fécondé une tradition de pensée dans laquelle vous vous inscrivez, dont par exemple Souleymane Bachir Diagne est un éminent représentant, qui consiste à penser la décolonisation, le mouvement décolonisateur et la pensée postcoloniale à la lumière de ce que Bergson peut dire du clos et de l'ouvert. Est-ce que, historiquement, c'est recevable? Mais ça, à la limite, on s'en fiche un peu, parce qu'on peut se servir d'un philosophe qui n'a pas traversé l'époque qu'il est employé à décrire, ou que son système est employé à décrire. Mais historiquement, peut-être, mais surtout, comment ça marche intellectuellement? C'est-à-dire, comment cette pensée de l'élan vital, de la vie, de la simplicité, de l'amour, est une pensée qui vient féconder la pensée postcoloniale. De quelle façon ça se fait? Comment ça marche?
Alors, je me permets juste, je ne sais pas si je dirais mon travail ou même de celui de Souleymane Bachir Diagne qu'on repense la question du postcolonial à partir de Bergson.
Il a quand même écrit un livre qui s'appelle Bergson et la pensée postcoloniale.
Bergson postcolonial, en fait. Et ce qui est intéressant, si juste je peux reprendre ce livre, que fait Souleymane Bachir Diagne, c'est qu'il analyse les voyages de la pensée bergsonienne, les voyages non-européens de la pensée bergsonienne, à la fois chez deux auteurs, Senghor, dont on reparlera, donc penseur de la négritude, et chez Mohamed Iqbal, donc un grand penseur de la réforme en islam, qui a écrit un livre magnifique, très nietzschéen, très bergsonien, qui est une relecture interne du Coran, qui s'appelle Reprendre la pensée religieuse de l'islam. Donc il ne s'agit pas là aussi de construire un argument sur ce qu'est la postcolonie ou sur la pensée postcoloniale à partir de Bergson. Par contre, toutefois, là où je vous suis et ce que vous dites est extrêmement important, c'est qu'il y a une tonalité en fait chez Bergson. C'est un penseur de la vie, et c'est un penseur de la vie créatrice. Et il est vrai que ce soit dans le travail de Souleymane Bachir Diagne, ou que ce soit dans les travaux de penseurs dont je me sens très très proche et que j'apprécie, je pense à des gens comme Achille Mbembe, toute la réflexion sur la postcolonie ou sur le monde postcolonial ne peut pas se désolidariser d'une réflexion sur le commun et sur la vie créatrice. Et l'enjeu à chaque fois consiste à saisir comment lutter contre les forces de mort, qu'on devra préciser parce que là c'est un peu métaphorique dit de cette manière, mais comment lutter contre les forces de mort qui saisissent l'espace politique.
Sans parler de forces de mort, est-ce qu'on peut tout simplement dire que l'enjeu d'un tel mélange est en réalité non pas tant de lutter contre les forces de mort que de lutter contre la négativité ou contre l'idée que la négativité serait première, qu'en d'autres termes la décolonisation procède d'abord d'un refus avant de procéder d'un amour?
Il faudrait qu'on passe directement à Fanon, avant de venir à Bergson. Mais la décolonisation apparaît nécessaire, et pour comprendre sa nécessité, il faut analyser la société coloniale et il faut analyser la violence qui est au cœur de cette société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il me semble, jeter d'un revers de la main des pensées de la lutte, des pensées qui vont vouloir rompre immédiatement, même de manière violente, avec l'ordre colonial, si on ne comprend pas quel type de violence est à l'œuvre précisément dans cet ordre colonial dont on veut se défaire.
Alors on va entendre, tiens, justement. Senghor ou Fanon? Senghor ou Fanon?
Oui.
Senghor ou Fanon?
C'est moi qui aurai le mot de la fin.
C'est vous qui aurez le mot de la fin.
Commençons par Senghor et on terminera par Fanon.
Alors Senghor, prière de paix, l'Afrique crucifiée, Julie-Marie Parmentier, écoutez ça.
Seigneur Jésus, à la fin de ce livre que je t'offre comme un ciboire de souffrance, au commencement de la grande année, au soleil de ta paix sur les toits neigeux de Paris, mais je sais bien que le sang de mes frères rougira de nouveau l'Orient jaune sur les bords de l'océan Pacifique que violent tempêtes et haines. Je sais bien que ce sang est la libation printanière dont les grands publicains depuis 70 années engraissent les terres d'empire. Seigneur, au pied de cette croix, et ce n'est plus toi l'arbre de douleur, mais au-dessus de l'ancien et du nouveau monde l'Afrique crucifiée, et son bras droit s'étend sur mon pays, et son côté gauche ombre l'Amérique. Et son cœur est Haïti cher, Haïti qui osa proclamer l'homme en face du tyran, au pied de mon Afrique crucifiée depuis 400 ans et pourtant respirante. Laisse-moi te dire, Seigneur, sa prière de paix et de pardon. Seigneur Dieu, pardonne à l'Europe blanche. Et il est vrai, Seigneur, que pendant 4 siècles de lumière, elle a jeté la bave et les abois de ses molosses sur mes terres. Et les chrétiens, abjurant ta lumière et la mansuétude de ton cœur, ont éclairé leur bivouac avec mes parchemins, torturé mes talbés, déporté mes docteurs et mes maîtres de science. Ah, oh, Seigneur, éloigne de ma mémoire la France, qui n'est pas la France, ce masque de petitesse et de haine sur le visage de la France, ce masque de petitesse et de haine pour qui je n'ai que haine. Mais je peux bien haïr le mal, car j'ai une grande faiblesse pour la France. Bénis ce peuple garrotté qui par 2 fois sut libérer ses mains et osa proclamer l'avènement des pauvres à la royauté, qui fit des esclaves du jour des hommes libres, égaux, fraternels. Bénis ce peuple qui m'a ouvert ta bonne nouvelle, Seigneur, et ouvert mes paupières lourdes à la lumière de la foi. Il a ouvert mon cœur à la connaissance du monde, me montrant l'arc-en-ciel des visages neufs de mes frères. Je vous salue, mes frères. Oh, bénis ce peuple, Seigneur, qui cherche son propre visage sous le masque et a peine à le reconnaître, qui te cherche parmi le froid, parmi la faim qui lui ronge os et entrailles. Et la fiancée pleure sa viduité, et le jeune homme voit sa jeunesse cambriolée, et la femme lamente, oh, l'œil absent de son mari, et la mère cherche le rêve de son enfant dans les gravats. Oh, bénis ce peuple qui rompt ses liens, bénis ce peuple aux abois qui fait front à la meute boulimique des puissants et des tortionnaires, et avec lui, tous les peuples d'Europe, tous les peuples d'Asie, tous les peuples d'Afrique et tous les peuples d'Amérique qui suent sang et souffrance. Et au milieu de ces millions de vagues, vois les têtes houleuses de mon peuple et donne à leurs mains chaudes qu'elles enlacent la terre d'une ceinture de mains fraternelles dessous l'arc-en-ciel de ta paix.
Dessous l'arc-en-ciel de ta paix. Ainsi s'achève un texte dans lequel il dit tout de même ce masque de petitesse et de haine pour qui je n'ai que haine. Cet homme est si vaste qu'il est capable d'inclure la haine dans la palette des sentiments qu'il décrit dans ce texte qui pourtant semble tout amour. Il y a là qui se dit.
Oui, ce texte tout amour, donc, il a été écrit en janvier 1945 et il est il appartient au recueil Hostie Noire. Donc ce texte est important en fait au sens où Senghor, surtout dans ses poèmes, après ses écrits théoriques sur la négritude sont un peu plus compliqués et il faudra en parler, mais ce texte est d'abord un texte contre un poison qu'il nomme dans ce poème lui-même, le ressentiment en fait. Il faut pouvoir tuer le ressentiment qui empêche quoi ? Qui empêche la constitution d'une police, avec un S, pas CE évidemment, universelle, d'une cité en fait, qui permettra aux êtres humains de pouvoir vivre ensemble en fonction des différences qui sont les leurs.
Est-ce que c'est ça qu'il appelle de ses vœux, comme la cité de Dieu dont l'avènement serait promis aux humains de bonne volonté, ou est-ce que c'est ce qu'il situe au principe même du geste de se défendre contre l'oppresseur ?
C'est au centre.
Est-ce que c'est une réécriture du mouvement par lequel on s'affranchit de l'oppresseur, ou est-ce que c'est une volonté d'orienter un tel mouvement vers une destination qui ne correspond pas à la violence initiale de son refus ?
Il s'agit en fait pour Senghor, si j'entends bien, de placer au centre même de toutes ces revendications politiques une parole d'amour en fait. Voilà quel est le sens du geste senghorien, et il le dit à la fin du poème, nous nous réunirons au festin catholique des peuples. Prière de paix, c'est une réflexion sur les conditions de l'universalité, sur les conditions d'un monde commun. Et Senghor le dit, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de possibilité d'universalité si elle est fondée sur la domination coloniale. Mais toutefois, Toutefois, ce que fait Senghor dans ce texte, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas possibilité de sortir de cette domination si on ne laisse pas parler, à un moment, on est dans la métaphore poétique, quelque chose comme une parole d'amour. La parole d'amour, chez Senghor, est au centre de son projet ou de sa visée poétique et politique quand il prophétise ce qu'il appelle lui-même la cité de l'universel.
Est-ce à dire que la négritude n'est pas une affaire de couleur? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, qu'est-ce qui distingue ce mot de négritude d'un particularisme, en définitive? Qu'est-ce qui fait que ce mot est perçu avec bienveillance, alors qu'il ressemble à une revendication particulariste? À quoi ça tient? À quoi tient cette bienveillance spontanée, d'ailleurs? Puisque ce qui est intéressant, c'est de voir les réflexes. Le mot de négritude n'est jamais, jamais, jamais perçu comme un racisme inversé, comme une dénonciation, comme un particularisme, mais est toujours perçu de façon bienveillante. À quoi tient cette bienveillance? Que veut dire ce mot?
Alors, je ne sais pas si j'analyserai les choses en voyant une bienveillance particulière concernant la négritude, mais en tout cas... D'emblée, le caractère racialisant de la négritude a été pointé. Si je pense à la préface de Sartre dans Orphée Noir, pour le coup, on parlait de Souleymane Bachir Diagne, il a bien dit que cette préface constituait une espèce de baiser de la mort de la négritude, puisque Sartre, dans cette même préface, parle de la négritude comme d'un racisme antiraciste qu'il faut pouvoir dépasser si nous voulons arriver à une société véritablement post-raciale.
La négation de la race,
la race n'est plus centrale.
Mais
pour revenir à la négritude.
Quand l'amour pense la négritude, quand Césaire ou Senghor pensent la négritude, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent deux choses. Je l'ai rappelé, ce texte date de 45. Cette date, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il y a deux négritudes. Si je suis simplement le cheminement intellectuel de Senghor, Senghor l'a dit, la négritude est née à Paris dans les années 30. J'étais compagnon de Césaire. Les premiers poèmes de Damas étaient là aussi publiés. Et comment pensions-nous notre négritude? Nous la pensions à l'aune d'un concept, celui du déracinement. Nous étions déracinés et nous voulions nous replier sur nous-mêmes. Et voilà ce que signifiait la négritude. Et les mots de Senghor le disent de manière presque bergsonienne, notre première négritude était une négritude fermée.
Close.
Senghor, une négritude close, en fait. Arrivent les événements de la guerre, Senghor, lui aussi, est mobilisé et va lutter donc contre l'Allemagne nazie. Il sera, lui aussi, emprisonné. Et cette expérience a été une expérience de violence pour lui. Elle le sera aussi pour Fanon, qui a lutté auprès de Gaulle quand il est venu du côté des armées françaises contre l'Allemagne nazie.
Vous dites qu'il a combattu dans les rangs de l'armée française.
C'est ça, complètement. Et donc, ce que va dire Senghor, c'est cet événement de la violence raciale anti-nazie a été tellement fort qu'il l'a amené aussi à reconfigurer la négritude et à penser la négritude comme une ouverture. Alors la question, la porie, elle est là. Pourquoi penser l'ouverture à partir du nègre, à partir du noir, à partir d'une couleur? Et est-ce que pourrait être un particularisme raciste?
Ou à partir du blanc, hein, ça ne marche pas davantage.
Ou à partir du blanc. Oui. Justement, bon, déjà, à partir du blanc, ça ne marche pas du tout. C'est la raison pour laquelle il faudra fonder la négritude. Mmh. Et justement, que fait
la
négritude?
La blanchitude, ça ne marche pas davantage, je veux dire.
Ben non, mais c'est précisément ce que va dire la négritude. La négritude dira finalement, l'humanisme qu'on nous présente, ouvert à tous les hommes, est un humanisme de la blanchitude. Mmh. Et pourquoi à partir du point de vue de la négritude, vu que dans la mesure où les mondes noirs ont été niés, c'est en partant de cette négation-là qu'on va pouvoir enfin peut-être reconsidérer ou penser un humanisme conséquent. La négritude senghorienne, celle de Césaire, qui sont construites de manière extrêmement différente. Le premier, donc Senghor, convoquant une métaphysique un peu singulière, un peu folle et délirante, parfois sur la race, etc. Et l'autre, partant d'une expérience subjective, Césaire, en tout cas les deux ont essayé de repenser la négritude comme un humanisme et de la vivre comme un humanisme permettant de corriger ou en tout cas de dépasser les clôtures portées par un humanisme renaissant et ne visant dans l'humanité que sa partie blanche et européenne.
Frantz Fanon est mal connu. Frantz Fanon est peu lu et indûment, et vous allez vous en apercevoir. Et paradoxalement, cet homme doit d'être méconnu à sa propre célébrité. C'est à la célébrité que lui a valu notamment la préface de Jean-Paul Sartre aux Damnés de la Terre qu'on doit de si mal connaître Frantz Fanon, dont je pense que, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas à cet instant, vous allez découvrir littéralement la parole. Écoutez ça, c'est magnifique.
Seront des aliénés, nègres et blancs, qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. Je suis un homme, et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. En aucune façon, je ne dois tirer du passé des peuples de couleur ma vocation originelle. Ce n'est pas le monde noir qui me dicte ma conduite, Ma peau noire n'est pas dépositaire de valeurs spécifiques. N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les Noirs du XVIIe siècle ? Dois-je, sur cette terre qui déjà tente de se dérober, me poser le problème de la vérité noire ? Dois-je me confiner dans la justification d'un angle facial ? Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de rechercher en quoi ma race est supérieure ou inférieure à une autre race. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de me préoccuper des moyens qui me permettraient de piétiner la fierté de l'ancien maître. Je n'ai pas le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il n'y a pas de mission nègre, il n'y a pas de fardeau blanc. Je me découvre, moi, homme, dans un monde où les mots se frangent de silence, dans un monde où l'autre interminablement se durcit. Non, je n'ai pas le droit de venir et de crier ma haine au blanc. Je n'ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance au blanc. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même. Non, je n'ai pas le droit d'être un noir. Si le blanc me conteste mon humanité, je lui montrerai, en faisant peser sur sa vie tout mon poids d'homme, que je ne suis pas ce yabon banania qu'il persiste à imaginer. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain, un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Il n'y a pas de monde blanc, il n'y a pas d'éthique blanche, pas davantage d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde des hommes qui se cherchent. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable sceau consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement.
Rien n'est plus bergsonien que cette dernière phrase, hein, les deux dernières d'ailleurs. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable sceau consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans ce monde, dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement. Quand on a lu un peu Bergson, on en retrouve l'émanation, les échos, et c'est un bouleversement au carré. Ce texte est stupéfiant. Ce texte est stupéfiant, d'abord de beauté, de justesse, on a envie de le dire, on a envie de le penser, mais aussi, c'est étonnant de voir à quel point Fanon ne ressemble pas à l'idée qu'on peut en avoir.
Oui, alors Fanon ne ressemble pas à l'idée qu'on peut en avoir, c'est un très grand auteur, très très grand, qui a pâti, souffert d'une irrecevabilité qui est aussi...
À quoi tient-elle ?
Elle tient à plusieurs raisons. Donc on en a déjà parlé. Donc il y a eu effectivement la publication, l'engagement. Déjà, l'engagement de Fanon dans la guerre auprès du FLN à partir des années 54. L'engagement aussi, la manière dont l'œuvre de Fanon a été reçue, notamment Les damnés de la terre, publié en 61. Fanon va mourir d'une leucémie quelques temps après, préfacé par Sartre. Et toute la réflexion sur la violence qui a été complètement absolutisée par Sartre, dont de nombreux non-lecteurs de Fanon justement décident de ne pas lire Fanon en raison de la violence, de l'appel au meurtre en fait qu'on retrouve dans cette préface de Sartre. Et puis aussi, la guerre d'Algérie a constitué longtemps peut-être un obstacle épistémologique pour recevoir et pour lire l'œuvre de Fanon. Et Fanon est aussi un penseur qui est très violent. Et qui, au sens, pas violent, pas au sens évidemment de ça, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais violent au sens où il remet en cause, où il peut constituer quelque chose comme une blessure narcissique pour un républicanisme qui justement n'accepterait pas de s'interpeller, de se questionner lui-même. Parce que des peaux noires, masque blanc, en fait, et on le comprendra d'une manière très forte, très profonde, qui je crois peut parler à beaucoup de monde, on retrouve une espèce de réflexion de Fanon sur la race comme étant au centre d'une république qui a passé son temps à l'invisibilité. brisée. Alors, je vais juste faire un point pour qu'on comprenne bien ça et qu'on comprenne que je suis pas dans une espèce de manichéisme et de volonté de faire violence à la République.
Personne
mais
ne
l'idée,
pense.
En tout cas, c'est que Fanon s'est engagé très jeune, à l'âge de 19 ans, donc, dans l'armée française pour lutter avec De Gaulle, donc pour lutter contre les nazis, en fait. Et il l'a fait au nom d'un idéal, au nom de l'idéal de la dignité humaine, au nom d'un idéal de la liberté, qu'il pensait croire présentifier précisément par cette République au nom de laquelle, avec laquelle il allait partir en guerre. Or, de quelle expérience fait-il dans l'armée ? Il fait l'expérience du racisme. Il fait l'expérience du fait que si tout le monde, effectivement, se bat contre l'Allemagne nazie, lui, dans l'armée, reste ce petit nègre des Antilles, en quelque sorte, dont les supérieurs ou autres vont distinguer leur comportement en fonction du petit blanc de l'armée, du petit nègre, etc. Donc il y a une expérience de racisme. Quand Fanon ensuite va venir faire ses études de médecine et de psychiatrie en France, à Lyon, il va faire là aussi des expériences de racisme qui vont consolider en quelque sorte sa manière d'appréhender la façon dont la race, l'histoire avec un grand H, ont des effets sur le psychisme des individus. Et toute l'histoire de Fanon et la force de peau noire masque blanc, en fait, c'est de rendre compte de l'incidence subjective de l'histoire, de la violence raciale, en fait, sur les individus. Et donc cet ouvrage va être à la croisée de plusieurs événements. Tout d'abord, cette expérience subjective dont je parlais, cette expérience subjective du racisme, à la fois dans l'armée et à la fois aussi en France, quand Fanon fait ses études, mais aussi rencontre avec la phénoménologie de Merleau-Ponty, l'existentialisme sartrien, la psychanalyse et ensuite la psychiatrie. Et donc tout l'objet de cette réflexion de peau noire masque blanc est de proposer une réflexion sur l'aliénation raciale du noir.
Mais c'est
France.
Très important, la phénoménologie en l'occurrence, parce qu'il désabsolutise sa pensée. Il n'y a pas de point de vue absolu chez Fanon, il n'y a aucune position de surplomb. Que ce surplomb soit noir ou blanc, justement. Et de ce point de vue, vous dites, il fait violence à une certaine idée de la République, mais avant cela, il fait violence à la fierté noire. Il fait violence à l'idée qu'être noir serait une fin en soi ou une valeur en soi. Il n'y a pas de mission nègre, il n'y a pas de fardeau blanc. Tout le monde est servi dans l'histoire. Je n'ai pas le droit d'être un noir. Il est le porte-parole de tous ceux à qui, quand ils prennent la parole, on fait le procès d'intention du lieu imaginaire d'où ils sont censés parler. Une parenthèse. En 67, De Gaulle parle du peuple d'élite, sûr de lui et dominateur en parlant du peuple juif. Le sang de Raymond Aron, enfin, mauvaise image, Raymond Aron est furax. Il entend ça, ça ne lui plaît pas. Il n'a jamais aimé vraiment le général De Gaulle. Il en profite pour faire un pamphlet dans lequel qui s'appelle De Gaulle, Israël et les Juifs. Il tarde à écrire ce pamphlet pour une raison simple, c'est qu'il est juif lui-même. Et il se dit, c'est à Malraux d'écrire ça. Mais jamais Malraux n'écrira ça, donc il va falloir que je m'y colle. Je ne m'y colle pas en tant que juif, je m'y colle en tant que républicain, en tant que citoyen, en tant qu'antiraciste. C'est pas en tant que juif que je l'écris, mais on va me reprocher de l'avoir écrit en tant que juif. Le texte, là, de Fanon, est un texte qui devance justement ce genre d'objection. Ça n'est pas en tant que noir que tu parles, ça n'est pas en tant que juif que tu parles. Je n'ai pas le droit d'être un noir, en d'autres termes, ce n'est pas en tant que noir que je vous dis, ici, qu'il n'y a pas de mission nègre et qu'il n'y a pas de fardeau blanc.
Je pense qu'il faut... Je ne lis pas le texte de Fanon, ne me paraît pas aller dans ce sens-là, en fait. Donc déjà, ce qui va être extrêmement important, ce texte à la base de Fanon, je reviens juste sur son histoire très rapidement. Ce texte à la base de Fanon devait être une thèse, c'était sa thèse en fait de psychiatrie qu'il devait présenter à Lyon. Cette thèse a été refusée, faisant scandale, et il a fait autre chose. Son premier titre était Essai sur la désaliénation du noir. Fanon a ensuite proposé le manuscrit aux éditions du Seuil, qui lui ont suggéré un titre plus commercial, et il est paru sous peau noire, masque blanc. Mais là, pourquoi ce texte a-t-il fait scandale et n'a-t-il pas pu être reçu, justement, comme thèse ? Parce que pour une fois, on avait affaire à un sujet racisé, à un sujet dominé de la République, précisément, qui parlait en première personne. Donc Fanon, il est important que Fanon, si j'ose dire, soit noir pour écrire peau noire masque blanc, puisque précisément à cette époque, les textes qu'on peut avoir sur les noirs ou sur le monde autre, en fait, seront toujours écrits par des auteurs blancs, en fait. Donc là, il s'agit de montrer qu'il existe une parole noire qui peut tout à fait se prendre en charge elle-même et rendre raison de l'expérience qu'elle est en train de vivre.
Vous parleriez d'une parole noire, vous diriez parole noire.
Je dis parole noire, mais dans une situation de domination. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas de définir une identité nègre, Fanon ne dira jamais cela, mais d'analyser les positions subjectives et les situations d'énonciation des sujets quand ils prennent la parole, dans des espaces qui soit dévaluent leur parole, ou qu'il s'agit précisément de conquérir, en fait. La question de la position subjective, elle est extrêmement importante pour comprendre ce texte de Fanon, et elle est extrême, et on ne peut pas, et si Fanon, quand Fanon critique la question des identités, qui critique-t-il, en fait ? Il critique la négritude, et il dit simplement, en fait, que la négritude qu'on va retrouver chez Senghor, parce que chez, qui n'est pas la même que celle de Césaire, qui consiste à dire quelle est l'ensemble des valeurs du monde noir, etc., et que le nègre répond à un ensemble essentialisé qui le définit comme émotion, alors que on connaît tous la raison, j'allais dire la raison est nègre, je le fais toujours celle-là, l'émotion est nègre comme la raison est laine. On sait toute la, que cette phrase, elle structure la négritude de Senghor. Or, ce que dit Fanon, c'est que ce n'est pas en se repliant ou en recherchant des vieilles lanternes du passé, en essayant de recomposer notre histoire, qu'on se libérera d'une domination effective, à la fois matérielle, économique, politique et raciale.
J'entends bien. Donc, ça veut dire que la désaliénation du noir, puisque l'expression que vous employez il y a quelques instants, désaliénation du noir, l'expression de Fanon, n'est pas seulement une façon d'abolir l'oppression, mais c'est également une façon de se débarrasser de ce qui, en soi, et en réponse à l'oppression, relève d'un particularisme aussi mortifère que celui d'en face.
Oui, dans une certaine mesure, sauf que cette égalité-là, je ne la prends pas en compte, au sens qu'on est quand même dans des rapports de domination, en fait. Mmh. Et il ne s'agit pas de dire... D'un côté, les blancs, je vais être un peu caricaturale et massive. Les blancs, vous avez défini votre identité. Nous, les noirs, on va définir la nôtre. Les choses ne se posent pas en ces termes. Il y a juste, pour aller très vite sur ce point, il y a une très belle expression, là aussi, d'un auteur que j'ai déjà cité, qui s'appelle Achille Mbembe, qui retravaille le texte de Fanon d'une manière extrêmement profonde, et qui dit bien qu'au centre de la pensée de Fanon, il existe une thématique qui est fondamentale, qu'on retrouvera de Peau noire, masque blanc jusqu'à ces derniers textes, en fait, qui est celle de la montée en humanité. À quelles conditions je me pose comme humain et je peux me construire comme humain par-delà la race et pourquoi pas par-delà la classe et le genre, si je voulais un petit peu emporter Fanon sur ce terrain. Et ça va être tout le centre de sa réflexion. Donc oui, les identités sont mortifères, c'est clair. Les essentialismes sont mortifères et les différences essentialisées produisent du meurtre. Là, je dirais de manière bergsonienne. Mais l'enjeu chez Fanon, c'est de savoir à quelles conditions la libération, l'émancipation de l'homme peut-elle devenir effective.
Il n'y a pas que l'essentialisation qui produit du meurtre, il y a aussi une certaine modalité de la pensée décolonialisante. Décolonialisatrice.
Ah, là, je vous laisse tout seul.
Je ne sais pas là. Il y a aussi une modalité du soutien à la décolonisation, telle que Sartre la formule en préface aux Damnés de la Terre, et je voudrais qu'on l'entende ici. Oui.
Un seul devoir, un seul objectif, chasser le colonialisme par tous les moyens. Et les plus avisés d'entre nous seraient à la rigueur prêts à l'admettre, mais ils ne peuvent s'empêcher de voir dans cette épreuve de force le moyen tout inhumain que des sous-hommes ont pris pour se faire octroyer une charte d'humanité. Qu'on l'accorde au plus vite et qu'ils tâchent alors par des entreprises pacifiques de la mériter. Nos belles âmes sont racistes. Elles auront profit à lire Fanon. Cette violence irrépressible, il le montre parfaitement, n'est pas une absurde tempête, ni la résurrection d'instincts sauvages, ni même un effet du ressentiment. C'est l'homme lui-même se recomposant. Cette vérité, nous l'avons su, je crois, et nous l'avons oubliée. Les marques de la violence, nulle douceur ne les effacera. C'est la violence qui peut seule les détruire. Et le colonisé se guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les armes. Quand sa rage éclate, il retrouve sa transparence perdue. Il se connaît dans la mesure même où il se fait. De loin, nous tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie. Mais elle procède par elle-même à l'émancipation progressive du combattant. Elle liquide en lui et hors de lui progressivement les ténèbres coloniales. Dès qu'elle commence, elle est sans merci. Il faut rester terrifié ou devenir terrible. Cela veut dire s'abandonner aux dissociations d'une vie truquée ou conquérir l'unité natale. Quand les paysans touchent des fusils, les vieux mythes pâlissent, les interdits sont un à un renversés, l'arme d'un combattant, c'est son humanité. Car en le premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds.
Et depuis 50 ans, c'est à ce texte-là qu'on identifie la pensée de Frantz Fanon. Comment l'a-t-il reçu d'ailleurs ce texte ?
Alors Alice Cherkin, dans son très beau portrait qu'elle fait de Frantz Fanon, raconte un petit peu comment Fanon l'a reçu. Donc Fanon était un grand lecteur de Sartre. Il a lu Lettres et le néant, il a lu Réflexions sur la question juive, il a lu aussi Critique de la raison dialectique. Et en fait, c'était un grand admirateur de Sartre qu'il a rencontré en 1960 et il a demandé à son éditeur à ce que Sartre fasse la préface des Damnés de la Terre. Donc le moment raconté par Alice Cherkin est le suivant. Frantz Fanon prend connaissance de la préface, il ne fait pas de commentaire. Donc
comment vous entendez ce silence de Fanon ? Le voilà béni par le pape en personne, couvert par la figure officielle de l'insoumission et de la liberté, le penseur de la liberté. Il est couvert par lui, béni par lui, et en même temps, toute sa pensée est rabattue à cette phrase. En le premier temps de la révolte, il faut tuer, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. On se prend évidemment, naturellement, à regretter que Camus était déjà mort à ce moment-là, parce qu'il n'aurait pas manqué probablement de répondre à Sartre sur un tel point.
Alors, le sans commentaire est complexe au sens où, enfin, il n'est pas tant que ça. Si on lit les textes, si on lit le début des Damnés de la Terre, le chapitre 1 de la violence, et si on lit la préface de Sartre, Sartre, non seulement, je dirais, absolutise les thèses des Fanon et les dénature. Il y a quelque chose comme une trahison. Donc, déjà, le sujet auquel s'adresse Sartre est le sujet européen. Dans les Damnés de la Terre, Fanon écrit pour les Damnés de la Terre, pour les sujets, les ex-colonisés qui sont en train, justement, de penser leur émancipation et de la vivre de manière effective. Donc, déjà, les textes ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Et secondement, Sartre justifie non seulement la violence et quelque chose comme un appel au meurtre individuel, ce que ne fait pas Fanon. Que dit Fanon ? Fanon est un penseur de la violence, mais il ne fait pas l'apologie de la violence pour la violence. Chez Fanon, il n'y a pas de décolonisation sans violence, mais pour des raisons précises, c'est qu'il faut comprendre au préalable ce qu'est la violence coloniale. Fanon est ce penseur de la violence coloniale. Alors, ce qui va être très important, là aussi, chez Fanon, c'est de comprendre la multiplicité ou les formes multiples que prend cette violence coloniale. Elle est à la fois, on l'a dit à plusieurs reprises, symbolique, elle est matérielle, elle est économique, elle s'en sert, on la voit, puisqu'elle a aussi une dimension spatiale, elle s'inscrit dans la géographie même des villes, avec des quartiers réservés aux colons et d'autres aux colonisés, etc. Mais c'est aussi une violence psychique. Et quand Fanon pense cette violence-là, il opère à la fois une clinique et une politique. Il s'agit pour lui de comprendre comment le fait de la colonisation, avec la violence de race, économique et matérielle qu'il porte, affecte la psyché des sujets. Et
La servitude volontaire.
Pas nécessairement de la servitude volontaire, mais si je prends par exemple la fin des Damnés de la Terre, on oublie chapitre, ça s'appelle « Guerre coloniale et troubles mentaux ». Il ne faut pas oublier que Frantz Fanon a été psychiatre quand il était en Algérie, qu'il a à la fois analysé des tortionnaires, mais qu'il a analysé aussi des sujets colonisés, et que ce qui va l'intéresser, c'est de voir en quelque sorte quels sont les mécanismes psychiques qui produisent du trauma. Et la violence coloniale est une violence traumatique qui affecte la subjectivité du sujet jusque dans son inconscient. Voilà ce que va penser Fanon. Et que nous dit Fanon avec la violence ? Il y a cette violence coloniale. Comment fait-on pour sortir d'une violence qui n'est que domination et qui exclut le sujet colonisé du monde des hommes ?
Mais on ne trouve pas dans les Damnés de la Terre, que je n'ai pas plus lu que tous les gens qui en parlent, à part vous peut-être, et peu de gens, malheureusement ce livre n'est pas assez lu, on ne trouve pas dans les Damnés de la Terre, je vous pose la question, de passages comparables aux propos de Sartre,
non.
C'est-à-dire de justification de la violence. Je ne dis pas qu'on récuse la violence, mais au fond, que l'enjeu, c'est d'empêcher la violence de se vivre tranquillement.
Voilà. Non, on ne trouve pas
cela dans les Damnés de la Terre.
Fanon est un penseur de la violence, ce n'est pas quelqu'un qui fait l'apologie de la violence, c'est un penseur qui va dire que la décolonisation ayant suspendu toute possibilité de vie éthique, il n'est pas possible, par simplement une législation, par la parole ou par le dialogue, de sortir de la décolonisation. Et pour effectuer, je reprends les termes d'Achille Mbembe qui sont très forts, notre montée en humanité, pour nous libérer, il s'avère que peut-être dans ce moment précis, la violence apparaît, mais c'est un passage obligé pour la libération, mais ce n'est pas une fin en soi. La violence n'est pas purificatrice.
C'est qui, nous ?
Nous. Nous, ce sera les damnés de la Terre. Mais alors après, c'est intéressant ce nous-là, parce que s'il s'agit de savoir, Fanon, on retrouvera ses idées dans certains pensées de la négritude ou chez d'autres types d'auteurs, en fait. Mais l'objet de Fanon, c'est pas de régénérer l'Europe. Il s'agit pas, en quelque sorte, de à partir d'une refondation...
Non, mais il dit quand même que l'Europe est notre création.
Je finis juste sur ce que j'étais en train de terminer, ce que je voulais dire. Il s'agit pas pour Fanon, en tout cas, de dire que l'Afrique renouvelée va venir enfin sortir l'Europe de la raison instrumentale dans laquelle elle s'est perdue et qui a fait de sa civilisation une civilisation mécanique. Je paraphrase personne, on trouve les mêmes choses, par exemple, chez quelqu'un comme Senghor. C'est pas ce penseur-là. Mais par contre, ce nous, je ne le désignerai pas en pointant des géographies, je ne le désignerai pas en disant ça concerne aussi les Blancs, c'est pas ici mon problème, mais il s'agit véritablement à un moment de se demander comment allons-nous habiter cette terre et comment allons-nous vivre en tant qu'hommes, nous recréer en tant qu'hommes, nous qui avons été des choses, pour habiter véritablement ce monde. Alors juste un dernier point, Fanon centre sa réflexion sur l'humanité, c'est un penseur de l'humanité. Être un penseur de l'humanité, ça ne veut pas dire qu'on a un penseur humaniste. Il n'y a pas de promotion théorique et éthique de l'homme chez Fanon, il n'y a pas de pensée de la nature humaine chez Fanon.
Non, mais il y a quand même l'ambition de penser l'humanité séparément de l'oppression. C'est-à-dire, il y a aussi quand même malgré tout l'ambition de penser la valeur humaine séparément du contexte tout à fait particulier ou de la violence qui s'est exercée par une partie de l'humanité sur une autre.
Il s'agit de penser véritablement l'humanité et de savoir quelles sont les conditions qui permettent à une humanité au sens générique d'exister. Comment fait ton quand on a été traité comme un animal, comme un objet, pour accéder à son humanité. Voilà la réponse à laquelle répond les damnés de la Terre dans le contexte des guerres de libération nationale, qui est celui que vit Fanon en 61.
Je voudrais qu'on entende un texte qui est plus vieux que les damnés de la Terre, qui remonte au début du XVIIe siècle, qui est en vérité la dernière pièce de Shakespeare. La tempête. C'est un extrait de cette dernière pièce et l'extrait en question est un dialogue entre le personnage de Caliban et le personnage de Prospero. Pour mémoire, Prospero est un prince en exil qui habite sur une île et dont le frère Félon s'échoue sur les rivages de l'île. Bon. Mais cet homme a à son service deux lieutenants, Ariel et Caliban, qui ont l'un et l'autre, de façon tout à fait différente, de réclamer leur liberté à Prospero. Et le personnage de Caliban, de ce point de vue, est, comme disent les journalistes, d'une étonnante modernité. Écoutez.
Cette île que tu m'as prise était à moi de par Sycorax, ma mère. Et à mon arrivée, tu m'as flatté. Tu faisais cas de moi, tu me donnais de l'eau avec des baies dedans. Tu m'enseignais le nom de la grande lumière et de l'autre, moindre, qui brûle le jour, la nuit. Et moi, je t'aimais. Je te montrais les ressources de l'île, les sources fraîches, les places d'eau salée, les terres grasses et les stériles. Ah, que maudit je sois de l'avoir fait! Que tous les charmes de Sycorax, ses crapauds, ses cafards, ses chauves-souris pleuvent sur vous comme la foudre. Car me voici à moi seul votre peuple, moi qui auparavant étais mon propre roi. Et de ce roc dur vous avez fait ma bauge, gardant pour vous tout le reste de l'île. Aussi menteur que fait pour être esclave, c'est le fouet qui t'émeut, non la bonté. Tout fumier que tu sois, je t'avais traité avec humanité d'abord. Je t'ai logé dans ma hutte. Mais vint le jour où tu voulus violer, déshonorer ma fille. Ah, ça, oui. Quel dommage que tu m'en aies empêché. J'aurais peuplé cette île de Caliban.
J'aurais peuplé cette île de Caliban, dit Caliban à Prospero. C'est tout à fait étonnant, ce texte, puisque tous les termes, quasiment, de la décolonisation sont présents dans le débat entre Caliban et Prospero. Tu m'enseignais le nom de la grande lumière et de l'autre moindre qui brûle le jour et la nuit. Moi, je t'aimais, je te montrais les ressources de l'île. Et puis, moi qui auparavant étais mon propre roi, désormais de ce roc dur, vous avez fait ma bauge. Réponse de Prospero, je t'avais traité avec humanité d'abord, mais vint le jour où tu voulus violer, déshonorer ma fille. Que vous inspire ce dialogue antique et si moderne ?
Dialogue antique et si moderne. Effectivement, alors, ce qui m'inspire dans le cadre du dialogue qui est le nôtre, c'est déjà... toutes les reprises en fait qui ont été faites de la tempête de Shakespeare, toutes les relectures qui ont été faites de ce texte, relectures aussi effectuées par des penseurs de la négritude qui ont très clairement rejoué à partir
Césaire,
de ce texte.
Hein, Césaire, gagnant du temps, hein, c'est Césaire qui a réécrit la tempête. En
réalité. Césaire a réécrit la tempête, donc si mes souvenirs sont bons, c'était en 59-69, faudrait vérifier, je pense que j'ai eu... Vérifions 69, je crois, en fait.
Je vous laisse seul.
Et en fait, il en fait une pièce de théâtre anticolonialiste, en fait, où effectivement Prospero est le colonisateur et Caliban le colonisé. Donc il y a plusieurs choses qui changent en fait dans ce texte de la tempête.
Parce que dans la pièce de Shakespeare,
Césaire, oui.
Oui, parce que dans la pièce de Shakespeare, Caliban n'est pas esclave accidentellement. Il a un tempérament d'esclave, ce qui est terrible à entendre, puisque c'est celui qui veut lutter contre l'oppression de Prospero, mais pour ce faire, il se soumet à Stefano et Trinculo parce qu'ils ont un vin délicieux. Je vais m'agenouiller devant lui. Ah, je te prie, sois mon Dieu, je baiserai tes pieds, laisse-moi lécher ta chaussure, etc., etc. Donc, il remplace une servitude par une autre, ce qui est un des problèmes, justement, de Caliban. Et à partir de là, certains ont lu d'ailleurs la tempête de Shakespeare, alors certainement pas Césaire, mais certains ont lu la tempête de Shakespeare ou les phénomènes de décolonisation à la lumière de ce texte-là, en considérant qu'en se décolonisant, les anciens peuples oppressés n'ont fait que basculer dans une servitude renouvelée, dans une autre modalité de la servitude. Comment comprenez-vous cela ?
Ah, ce point-là est intéressant. Mais par exemple, là, si on retrouve la quête, enfin, si on reprend le texte de Césaire, là où il est intéressant, c'est qu'il se termine sur un combat perpétuel. C'est-à-dire que Prospero décide de rester sur son île, et Caliban est là aussi. Et le combat, la lutte, finalement, va être éternelle. Une lutte pour la liberté qui se construit sur le motif qu'on retrouvera dans toute la pièce de Césaire. Liberté, oui, liberté, en fait. Donc se rejoue quelque chose de cette pièce, il y a plus de cette pièce de Shakespeare, se rejoue aussi quelque chose de cette pièce de Shakespeare, si on la replace aussi dans le contexte de, enfin pour Césaire, dans le contexte de la lutte du mouvement des droits civiques aux États-Unis, où aussi il y a deux options qui se mettent en place pour penser la liberté et l'émancipation, à la fois celle d'Ariel, qui n'est plus l'esprit de l'air, mais qui est juste un jeune mulâtre qui pense qu'il peut obtenir sa liberté en négociant, et il va l'obtenir effectivement, et de l'autre côté, donc Caliban, l'esclave noir révolté, qui considère qu'il n'y a de possibilité d'émancipation qu'en passant par la lutte armée.
J'ai commencé cette discussion en parlant de Camus et du journaliste Rambert, qui comprend que s'il n'y a pas de honte à être heureux, il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. Et il me semblait voir là quelque chose qui était de l'ordre d'un passage non principiel ou non dicté, qui ne vient pas d'une injonction, d'une morale close à une morale ouverte. Est-ce que ce que vous dites de Fanon, ce que vous dites de Senghor, ce que vous dites de Bergson, et ce que vous dites de cette pensée-là n'est pas à lire à la lumière, par exemple, de l'homme révolté, du tout début de l'homme révolté, si difficile et tellement simple, qui consiste à dire qu'un homme révolté, c'est un homme qui dit non, mais s'il est vraiment révolté, c'est qu'au principe de ce non, il y a d'abord un oui, il y a d'abord un consentement. Et le souvenir de ce consentement qui dicte la révolte est ce qui permet à la révolte d'être maintenue, à la flamme de la révolte d'être maintenue, c'est-à-dire à ne pas s'abîmer soit en conservatisme, ni en conservatisme, ni en révolution, c'est-à-dire en servitude renouvelée. Est-ce que ce parallèle vous semble recevable ? Est-ce qu'au fond, l'idée, ça n'est pas de penser la décolonisation comme une affirmation plus que comme un refus ?
Il est clair, ces textes sont très très beaux. Alors, on a ici affaire en plus, c'est intéressant, à des parcours extrêmement différents sur le plan historique, sur le plan politique et idéologique. Mais là où je serais tout à fait d'accord avec vous, c'est que il n'y a pas de décolonisation sans une affirmation. Et toute la pensée de Fanon, puisque je reste sur cet auteur qui est un des grands penseurs du XXe siècle et qui nous aide à penser ce début du XXIe siècle, c'est d'essayer de penser comment faire en sorte que nos vies ne soient pas des morts incomplètes, Comment faire en sorte, finalement, comment construire nos vies, les créer et finalement participer à cette constitution, à nous auto-créer en tant qu'humains. Voilà quelle est la pensée de Fanon. Thèse éminemment politique et qui exige à un moment de s'inquiéter de la manière dont la grande histoire, avec toutes ses violences, affecte les sujets. Donc c'est, il n'y a pas de, chez des penseurs comme Fanon, après Saint-Gore c'est différent mais c'est présent chez lui aussi, ou chez des penseurs comme Césaire en fait, il y a un oui en fait à cette idée en fait que si nous nous battons, si nous luttons en quelque sorte, c'est précisément pour faire advenir, non pas un homme nouveau, il ne s'agit pas de réactiver un messianisme, mais effectivement d'auto-créer continuellement cette humanité et de faire en sorte que nous ne soyons plus des riens.
Approche, Caliban. Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Profite de mes bonnes dispositions, je suis aujourd'hui dans ma veine pardonnante.
Je ne tiens pas du tout à me défendre. Je n'ai qu'un regret, celui d'avoir échoué.
Et qu'espérais-tu ?
Reprendre mon île et reconquérir ma liberté.
Que ferais-tu tout seul dans cette île hantée du diable et battue par la tempête ?
D'abord me débarrasser de toi. Te vomir, toi, tes pompes, tes œuvres, ta blanche toxine.
En fait, de programme, c'est plutôt négatif.
Tu n'y es pas. Je dis que tu es à vomir. Et ça, c'est très positif.
Décidément, c'est le monde renversé. On aura tout vu. Caliban dialecticien. Mais après tout, Caliban, je t'aime bien. Allons, faisons la paix. Nous avons vécu 10 ans ensemble et travaillé côte à côte 10 ans. 10 ans, ça compte! Nous avons fini par devenir compatriotes.
Ce n'est pas la paix qui m'intéresse, tu le sais bien. C'est d'être libre. Libre, tu m'entends ?
C'est drôle. Tu as beau faire, tu ne parviendras pas à me faire croire que je suis un tyran.
Il faut que tu comprennes, Prospero. Des années j'ai courbé la tête. Des années j'ai accepté, tout accepté. Tes insultes, ton ingratitude, puis encore plus dégradante que tout le reste, ta condescendance. Mais maintenant c'est fini. Fini, tu entends ? Bien sûr, pour le moment, tu es encore le plus fort. Mais ta force, je m'en moque, comme de tes chiens d'ailleurs, de ta police, de tes inventions. Et tu sais pourquoi je m'en moque ? Tu veux le savoir ? C'est parce que je sais que je t'aurai empalé. Et au pieu que tu auras toi-même aiguisé, empalé à toi-même. Prospero, tu es un grand illusionniste. Le mensonge, ça te connaît. Et tu m'as tellement menti. Menti sur le monde, menti sur moi-même. Que tu as fini par m'imposer une image de moi-même, un sous-développé, comme tu dis, un sous-capable. Voilà comment tu m'as obligé à me voir. Et cette image, je la hais, et elle est fausse. Mais maintenant, je te connais, vieux cancer, et je me connais aussi. Et je sais qu'un jour, mon point nu, mon seul point nu, suffira pour écraser ton monde. Le vieux monde foire, c'est pas vrai ? Tiens, regarde. Toi-même, tu t'y emmerdes. À propos, tu as une occasion d'en finir. Tu peux foutre le camp. Tu peux rentrer en Europe. Mais je t'en fous. Je suis sûre que tu ne partiras pas. Ça me fait rigoler ta mission, ta vocation. Ta vocation est de m'emmerder. Et voilà pourquoi tu resteras, comme ces mecs qui ont fait les colonies et qui ne peuvent plus vivre ailleurs. Un vieil intoxiqué, voilà ce que tu es.
Pauvre Caliban. Tu le sais bien que tu vas à ta perte, que tu cours au suicide. Que je serai le plus fort, et chaque fois le plus fort. Je te plains.
Et moi, je te hais.
Julie-Marie Parmentier.
Merci à tous. L'émission que vous venez d'entendre a été enregistrée dimanche 28 juin 2015 à Toulouse, dans le merveilleux auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines, à l'occasion du Marathon des mots et dans le cadre de notre série Le pouvoir imaginaire, une série proposée et animée par Raphaël Antoven en partenariat avec Philosophie Magazine. Série d'ailleurs dont ce sera la fin dimanche prochain, de 16h à 17h, comme chaque dimanche de cet été, où nous vous donnons rendez-vous donc pour une ultime discussion politique en compagnie du grand Nicolas Grimaldi autour de la question de savoir si la démocratie atteint son crépuscule. « On se retrouve aussi le samedi d'avant, si vous le souhaitez, pour une rediffusion du Gai Savoir de 16h à 17h. Et enfin, rendez-vous en ligne sur le site de France Culture, à la page du Pouvoir imaginaire ou bien du Gai Savoir, où vous attendent téléchargements, indications bibliographiques et écoute en ligne. Un grand merci à toute l'équipe du Marathon des mots et tous ses anges gardiens. Et un grand merci pour France Culture à Virginie Noël, Sandrine Trainer, Olivier Poivre d'Arvor, Rafik Zénine à la réalisation, Guillaume Rialan, Yvan Turc et Hervé Dubreuil. Merci enfin à Alice Ramon et Julien Tricard, sans qui ces émissions n'auraient pas eu lieu, et à notre lectrice Julie-Marie Parmentier et notre invitée Nadia Yala Kisukidi. Dans quelques instants, retrouvez Une vie, une œuvre sur France Culture, Martin Kénéenne.